Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour à tous, je suis Alice Hachet, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Frenchkio, le président France de Hyundai Motors. C'est une marque automobile qui fait à peu près 85% d'électrique, c'est ça, aujourd'hui?
De véhicules électrifiés, on va dire.
C'est-à-dire, c'est quoi? Tiens, on va commencer par ça. C'est quoi la différence?
Donc, véhicules électrifiés, en fait, c'est tous les véhicules avec une assistance électrique, que ce soit hybride, hybride rechargeable ou 100% électrique. Donc, c'est vrai que finalement, aujourd'hui, c'est aussi un premier travail qu'on doit faire, nous, en tant que constructeurs, c'est de bien éduquer les gens sur les différentes technologies, parce que parfois, c'est un peu finalement compliqué pour les consommateurs. Par le passé, et c'était pas il y a si longtemps, les gens se posaient pas trop la question de savoir quelle motorisation ils allaient acheter. Ils avaient le choix entre un essence et un diesel. Et il y a assez peu de temps, c'était très souvent des diesels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours essence et diesel, même si globalement, on en vend de moins en moins.
Et puis, c'était surtout en fonction de la disponibilité de la ressource et du prix, et pas forcément de l'impact sur la planète.
Absolument. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens se posent déjà la question de l'impact sur la planète, évidemment, le prix aussi. Ça fait que l'évolution, on va dire, de la consommation amène à consommer plus électrique ou plus électrifié. Donc, de l'hybride, on va dire, qui est la solution la plus simple, au 100% électrique, où là, effectivement, il n'y a plus du tout de notion de véhicule de thermique, puisqu'il n'y a pas d'essence, c'est uniquement l'électricité ou l'hydrogène.
Mais alors, même si l'électrique a été prouvé, et j'ai regardé les études récemment, c'est sûr que d'ailleurs même le GIEC le recommande de tout passer en électrique, même si les batteries ne sont pas encore recyclables, et ça reste un sujet, et donc tous les consommateurs dénoncent encore, ça reste encore plus écologique quand même que la voiture
thermique.
Mais l'hybride, alors là, mais encore une fois, je ne sais pas, il y a tellement d'études. Est-ce que toi, tu as de vraies études? Est-ce que c'est pire aussi, c'est pire que le thermique, ou est-ce que finalement, le mieux, c'est l'électrique?
Aujourd'hui, on va dire globalement, ce sur quoi les gens sont à peu près d'accord, en fonction des ONG et des constructeurs, mais une voiture électrique, ça va polluer moitié moins qu'une voiture thermique.
Même avec la batterie qui...
De A jusqu'à Z, c'est-à-dire de la d'accord. fabrication jusqu'au recyclage de la batterie, c'est à peu près 50%. Alors après, on peut toujours pinailler sur l'origine de l'électricité, c'est-à-dire qu'en France, c'est un peu mieux si on considère que le nucléaire est décarboné.
Le mix énergétique, tout à
voilà.
fait, du
donc,
pays.
Alors que si vous le faites en Pologne ou en Allemagne, où c'est un peu plus au charbon, c'est un peu moins positif. On va dire. Mais on va dire, ce sur quoi tout le monde est à peu près d'accord, c'est de dire qu'une voiture électrique, c'est moitié moins polluant qu'une voiture thermique. Donc, c'est mieux. C'est pas rien, mais c'est mieux.
Mais la batterie, même si elle est parcyclée, ça reste...
Non, en incluant la partie recyclage de la batterie. Donc c'est
mais on l'a pas encore, ça, du coup.
Aujourd'hui, oui, parce qu'il y a des filières de recyclage qui sont assez artisanale, hein, encore au moment où on se parle, puisque la volumétrie ne permet pas d'avoir finalement une procédure industrielle, on va dire, très développée. Mais quand on voit la vitesse avec laquelle, finalement, aujourd'hui, l'électrique se développe, que ce soit en France, on va dire, sur la partie ouest de l'Europe, parce que c'est ça aussi qui est un peu complexe aujourd'hui pour les constructeurs, c'est que c'est quand même très localisé sur certains marchés. Il y a des industries qui commencent à mettre en place pour pouvoir recycler les batteries. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'en fait, on se rend bien compte que la ressource, notamment lithium ou nickel, elle n'est pas illimitée. Et ça veut dire que ça va nous contraindre, quoi qu'il en soit, nous, à recycler ces produits-là. Parce qu'une fois que j'ai récupéré le lithium ou le nickel d'une batterie usagée, je peux le remettre dans une nouvelle batterie sans que ça pose aucun problème. Il n'est pas abîmé, il n'est pas détérioré. Donc ça veut dire que pour qu'on puisse arriver à avoir un parc roulant qui soit à horizon 2030 ou 2035 100% électrique, on aura de toute façon besoin de recycler les batteries. Ça sera une obligation.
Pourquoi la filière n'est pas encore à maturité? Parce que j'imagine qu'il y a déjà des batteries à recycler, il y a déjà de la matière.
Dans des tout petits volumes.
Ah, donc en fait, il n'y a pas encore assez de batteries à recycler.
Exactement.
C'est hyper intéressant.
Le démarrage vraiment de l'électrique avec des volumes importants, ça date d'il y a quelques années. Et quand je disais que c'est aussi très localisé, c'est qu'on se rend compte que si je prends le cas de l'Europe, par exemple, les voitures électriques, c'est où? C'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre, la Norvège et les Pays-Bas. Sur les autres marchés d'Europe, on parle de volumes très très faibles, simplement parce que les États ne subventionnent pas ces technologies-là, ou simplement il n'y a pas d'appétence pour la population locale à acheter ce genre de produits. On le voit notamment sur la partie Europe centrale où il n'y a quasiment pas de consommation électrique. Donc, ça fait que la filière se met en place.
Oui, mais pour accueillir au moment où, justement, il va y avoir un boom, un bébé.
Ça va devenir aussi, finalement, une filière profitable. Aujourd'hui, ça l'est pas ou peu, mais la volumétrie va amener aussi, finalement, des opportunités industrielles. Et on parle beaucoup d'industrie en ce moment en Europe et en Europe de l'Ouest en particulier. Donc, ça va amener aussi, évidemment, une opportunité de créer des emplois au travers du développement de cette filière. On en est vraiment au démarrage. Là, au moment où on se parle, on a en France, si je parle de la France, il n'y a que 12% des voitures vendues qui sont 100% électriques. Donc, c'est
très faible.
Oui,
mais on a encore un souci avec les bornes de recharge.
Et je ne suis pas d'accord. Alors, c'est vrai que c'est un peu le...
Ah bah, pour le coup, moi, j'ai des parents, je les aime fort, mais j'essaye de rester hyper objective. Ils sont pleins de bonne volonté, mais ils trouvent pas. Enfin, les bornes, c'est une catastrophe. Et même quand ils en trouvent, c'est pas forcément compatible avec leur voiture. C'est pas possible.
Non, mais il y a. Alors,
moi, j'ai pas de voiture, donc je peux pas.
Moi, je roule avec une voiture électrique depuis 4 ans maintenant.
Ouais.
Aujourd'hui, il y a plus de 600 000 bornes en fait en France, dans la réalité. Alors, il y en a une grosse partie
qui sont mal implantées.
Il y en a une grosse partie qui sont des bornes privées, c'est-à-dire ceux que les gens ont à domicile. On va dire, les stats au mois de mars, à fin mars, c'était à peu près 57 000 bornes dans le domaine
public.
Mais
ça, justement, le fait d'avoir quelque chose, une borne privée, ça doit être... c'est moins écologique qu'une borne partagée, non? Ou ça n'a pas d'incidence?
Non, ça n'a pas d'incidence.
D'accord.
Aujourd'hui, installer une borne dans son garage,
ça n'a pas d'incidence.
C'est installer une prise.
Okay.
Donc c'est une prise renforcée, on va dire, donc c'est plus sécurisé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, de mon point de vue, finalement, le premier point bloquant, si on voulait aller beaucoup plus loin sur l'électrique, c'est de s'assurer que chaque personne a à son domicile ou puisse avoir à son domicile une borne de recharge. Alors, c'est vrai que quand on vit à Paris, comme vous et moi, c'est plus compliqué parce que je n'ai pas de garage. Je pense que vous n'avez pas de voiture, donc vous n'avez pas de voiture.
Non, moi, je n'ai vraiment pas de voiture. Donc, Paris,
donc,
c'est...
Mais c'est vrai que finalement, on se rend bien compte aujourd'hui que le premier frein, probablement, avant d'acheter une voiture, c'est est-ce que finalement, à mon domicile, je peux m'installer une borne. Alors, c'est pour ça qu'au démarrage de la voiture électrique, beaucoup de constructeurs ont pensé qu'elle serait d'abord dans les villes, notamment des villes comme Paris. Et la réalité, c'est qu'en fait, ça s'est d'abord développé dans des villes dans des endroits périurbains, simplement parce que les gens avaient leur maison avec leur garage. Et donc, finalement, assez simplement, ils pouvaient installer une borne de recharge sans demander à la copropriété, sans que ça soit très compliqué. Donc, le développement de l'électrique s'est d'abord fait là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, installer des bornes de recharge dans les parkings des immeubles, etc., c'est là aussi qu'il faut travailler. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de blocage parce que la loi autorise chacun d'entre nous, si on a un garage dans une copropriété, à installer une borne de recharge sans que la copro puisse dire non. Parfois, c'est pas si simple, mais en tout cas, c'est comme ça. Mais c'est vrai que les choses évoluent rapidement et à l'usage aujourd'hui, si vous prenez l'autoroute, par exemple, trouver une borne, c'est pas si compliqué, honnêtement. Enfin, moi, je...
Est-ce qu'il y a des... Alors, parce que vraiment, pour le coup, comme j'ai pas de voiture, j'ai pas... Est-ce qu'il y a des applications qui te permettent de trouver...
Aujourd'hui, il y a des applications qui permettent finalement programmer son trajet, de se dire, bah, tiens, je vais de Paris à Marseille, mettre son véhicule et de dire, bah voilà, avec telle voiture, il va falloir que tu t'arrêtes à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et donc de programmer finalement les endroits où on va devoir s'arrêter en fonction de la typologie de la voiture qu'on a, de la taille de la batterie, du temps de charge, etc. Donc c'est pas si compliqué aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a une sorte de un peu de fausse barbe généralisée en disant oui, mais bon, si on avait des batteries, on achèterait des voitures électriques, si on avait des bornes de recharge, on achèterait des voitures électriques, mais
Il y a le prix aussi.
La réalité n'est pas tout à fait celle-là. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. Ensuite, le prix, c'est sûr que quand on parle acquisition de la voiture électrique, aujourd'hui, c'est plus cher, bien qu'il y ait des 6 000 euros d'aide de l'État. Mais je pense que, en fait, il faut penser voiture électrique en fonction de son usage, en coût d'usage. Et finalement, aujourd'hui, si je loue ma voiture sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, si j'y rajoute le fait que les assurances sont beaucoup moins chères, le fait qu'aujourd'hui, évidemment, un plein d'une voiture électrique, c'est beaucoup moins cher qu'un plein d'une voiture thermique, au final, à l'usage, c'est pas vrai. Donc c'est important finalement d'avoir une approche.
En fait, c'est ça le problème.
Il faut que les gens, en fait, ils aient une approche qui soit pas j'achète une voiture à X milliers d'euros, c'est que je vais budgétiser tous les mois ce que je vais dépenser pour ma voiture et comparer finalement une voiture thermique à une voiture électrique et on va se rendre compte assez rapidement que dans plein de cas, une voiture électrique va être moins chère. Et c'est malheureusement encore plus vrai aujourd'hui. Et pour preuve, c'est que quand je regarde mon carnet de commandes, on va dire mes volumes de vente sur les deux premiers mois de cette année, j'avais à peu près 20% de mes ventes qui étaient 100% électriques. Et c'est vrai que malheureusement, avec la crise dans laquelle on est aujourd'hui, avec un prix de l'essence qui a été extrêmement augmenté, du jour au lendemain, à partir du début du mois de mars, le poids des 100% électriques donc, dans mes ventes est passé de 20 à 40%. Mais du jour au lendemain. Simplement parce qu'effectivement, les gens se sont dit, OK, avec un litre d'essence à 2,50 euros, le calcul il est vite fait. Et finalement, cet impact fort de l'économie a fini par convaincre des gens qui se disaient, bah, tiens, j'ai le temps, ou je vais peut-être pas y aller tout de suite, ou est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et le calcul économique a poussé des gens vers le 100% électrique, ce qui est globalement plutôt positif, évidemment, pour l'économie, même si ça se fait dans un cadre, encore une fois, dans un contexte qui est un peu négatif, si on parle de la crise en Ukraine, évidemment.
J'ai une question qui est peut-être débile, mais je pense qu'il n'y a aucune question débile. Je dis ça pour me dédouaner, en fait, de poser la question. Aujourd'hui, si on dit à tout le monde de changer sa voiture, tu sais, on parle pour le numérique de durabilité, même dans ses smartphones, etc., même qui consomment plus, c'est pas si on essaie de trouver un équilibre, si tout le monde, met à la casse son ancienne voiture et en rachète une nouvelle, c'est pas pire pour le climat, finalement, même si elle est électrique?
Non mais bon, d'abord, c'est utopique parce qu'il y a 30 millions de voitures qui roulent en France. Ouais. Donc, avant que ce parc roulant-là soit 100% électrique, il va se passer beaucoup d'années. Et quoi qu'il en soit, nous, en tant que constructeurs, on ne serait pas à même de livrer
une quantité
de voitures
à
ce niveau-là. Donc, la question, elle est d'abord, évidemment, d'inciter les gens avec les voitures les plus anciennes pour commencer à basculer à l'électrique. Donc, c'est
et on ne peut pas rendre électrique un modèle ancien, par exemple? Est-ce qu'à terme, on ne pourra pas faire de la réhabilitation du vieux véhicule?
Ça s'appelle le rétrofit. Alors, il y a quelques entreprises qui le font. Mais là aussi, on revient toujours à une problématique économique. C'est qu'à un moment donné, jusqu'à quel point, finalement, faire le rétrofit de la voiture ne coûte pas plus cher que de changer de voiture. Donc, c'est des équilibres qui sont complexes. Mais c'est aussi pour ça que, finalement, le gouvernement, notamment, a mis en place des aides spécifiques en fonction des revenus des gens, etc., qui permettent, de aussi pousser les gens avec des revenus les plus faibles à basculer sur ce type de technologie. Mais encore une fois, c'est un processus lent, même si il faut quand même noter qu'en France, on est plutôt en avance sur le reste de l'Europe. Enfin, je veux dire, c'est pas...
Et du monde. du monde, globalement.
On a souvent tendance à se flageller un peu, mais c'est vrai que, globalement, on a plutôt été extrêmement, on va dire, pushy sur la technologie 100% électrique, aussi parce que, évidemment, les constructeurs français étaient plutôt bien engagés, notamment Renault. C'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, quand on regarde les gros marchés de l'électrique en Europe, la France en fait partie, au même titre que l'Allemagne ou l'Angleterre, alors que, par exemple, des pays comme l'Italie ou l'Espagne ne sont pas du tout dans ce train-là. Donc, il y a encore, du travail à faire. Mais malgré tout, on est plutôt dans une bonne direction. Et aujourd'hui, on va dire, on a en immatriculation, on a 12% des ventes en 100% électrique sur le marché français. Mais c'est vrai que quand on regarde finalement les marques qui sont déjà très engagées sur l'électrique aujourd'hui, pour ce qui me concerne, c'est 30% de mes commandes aujourd'hui. Donc, ça commence à être très important. Et c'est vrai que quand l'Europe a décidé qu'à partir de 2035, on n'aurait plus le droit de vendre des voitures thermiques, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Oulala, mais ça arrive trop vite, c'est trop ». La réalité, probablement, c'est qu'en fait, bien avant 2035, les gens vont avoir basculé.
Bah, tu sais, un peu comme le plastique à usage unique 2040, hein. C'est exactement. Pas si loin pareil, hein. Donc,
c'est vrai qu'on voit bien qu'au travers de la prise de conscience écologique, au travers de crises, que ce soit la crise de l'Ukraine, mais les incendies qu'on a dans le sud de la France, en Espagne, au Portugal...
En
Bretagne, 40 degrés à Londres, enfin des trucs qu'on n'a jamais vus. Bon, les gens, ils vont finir par comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à...
Il y a toujours des climato-sceptiques qui nous rappellent toutes les canicules qu'on a vécues.
Ce qui est important, c'est qu'il y a un mouvement de fond. La problématique, c'est toujours une question de timing. Donc, c'est qu'effectivement, il y a une urgence dont on n'a pas toujours conscience. Et c'est pour ça que la vraie complexité, finalement, c'est de faire monter à bord, on va dire, tout le continent et pas simplement une partie du continent. Parce que c'est sûr que si vous allez, si les auditeurs vont en Norvège, ils vont se rendre compte qu'en Norvège, maintenant, il n'y a quasiment plus que des voitures électriques. C'est pas un sujet pour ce pays-là. Mais la Norvège, c'est anecdotique au regard du reste de l'Europe. Donc, comment, effectivement, on amène les Italiens, les Espagnols, l'Europe centrale.
C'est moi qui vais me charger des Italiens, je suis allé les voir.
À basculer, et c'est vrai que il y a une vraie... C'est en ça, effectivement, que faire bouger l'Europe est important, puisque la France tout seul, évidemment, il faut commencer par soi-même.
Ok, l'Europe, mais face à la Chine et aux États-Unis, comment on fait? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Faut bouger, il faut être un exemplaire.
On peut toujours se dire...
Et tu penses qu'ils bougeront, les États-Unis et la Chine?
La Chine, probablement.
Les États-Unis, moins.
Bah, je Moi, je pense que la Chine, probablement, parce qu'il y a un enjeu chez eux qui est aussi un enjeu de santé publique, parce qu'avec la vitesse à laquelle le parc automobile se développe là-bas et la population, en fait, ils n'auront pas d'alternative à passer à l'électrique, sinon ça va être une forme de suicide collectif, entre guillemets, et donc ça va être un sujet. Les États-Unis, c'est plus compliqué, parce que la culture est un peu différente, et c'est vrai que l'usage de l'automobile est aussi assez différent. Et on voit bien aussi, et c'est un peu le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui, c'est que finalement, quand on donne un accès peu cher à l'essence, ça incite pas les gens à passer à autre chose. Et c'est ce que j'ai dit à l'heure, c'est que malheureusement, la crise dans laquelle on est, là je parle de la crise géopolitique, a poussé en France beaucoup de gens, mais pas qu'en France d'ailleurs, c'est aussi le cas notamment en Allemagne, a poussé des gens à se dire, bon, ok, maintenant finalement c'est le bon moment pour moi pour l'électrique. Pas parce qu'ils ont subitement une conscience écologique qui s'est développée, mais simplement parce que d'un point de vue économique, ça avait du sens.
Comme même la pandémie en fait, tout ce qui nous arrive, j'ai toujours dit que rien n'arrivait par hasard, c'est horrible de dire ça, c'est fataliste, mais voilà, ça a une raison et ça nous pousse dans ce sens-là.
Donc c'est vrai que c'est un peu le sujet compliqué, parce qu'on a bien vu à quel point le prix de l'essence est un sujet sensible, et c'est toujours un sujet sensible parce que c'est encore discuté aujourd'hui, sur la capacité des gens à se déplacer, à aller travailler, à vivre leur quotidien comme si de rien n'était. Mais en même temps, finalement, amener une opportunité d'acheter de l'essence peu chère ou pas chère, ça ralentit aussi finalement la bascule vers des technologies qui soient plus vertueuses pour l'environnement dans lequel on vit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi une complexité pour les gens qui nous dirigent, parce qu'il n'y en a finalement pas un qui a eu un mandat de la population en disant, ben voilà, maintenant, il faut que tu arrêtes les voitures thermiques, c'est pas ça qu'on a demandé.
D'ailleurs, vous n'êtes même pas à 100%, vous n'êtes pas encore à 100% de voitures électriques.
Ben non, mais aujourd'hui, c'est 30% de ce qu'on vend est 100% électrique.
Ah oui, c'est pas si gros que ça. Hein,
et électrifié, on va dire, c'est...
85.
Ouais, c'est ça. Donc,
je connais mieux mes chiffres. Donc,
électrifié, c'est hybride rechargeable ou 100% ouais. électrique.
Donc, mais pareil, hybride, objectivement.
Non mais en fait,
j'arrive pas. Moi, je sais bien parce que j'en parlais avec certains auditeurs récemment. Ils trouvaient que c'était un non-sens l'hybride. En fait, parce qu'ils l'utilisaient mal aussi.
Alors, le problème, c'est l'usage. Tu parles de l'hybride rechargeable.
Ah oui, peut-être, t'as raison.
Donc, en fait, c'est intéressant parce que c'est. Je disais tout à l'heure, c'est que la connaissance de la technologie, c'est un travail qu'on doit encore faire vis-à-vis des consommateurs. L'hybride, c'est une voiture qui ne se charge pas. C'est-à-dire que c'est une toute petite batterie qui assiste le moteur électrique et donc avec une petite autonomie. Et en fait, elle se charge. Quand la voiture freine. Donc
il n'y a pas cette batterie électrique.
Il y a une batterie, d'accord. Mais c'est le stop and go du moteur qui va charger.
Mais elle n'est pas comme la batterie.
Pas besoin de la charger. En revanche, ensuite, il y a l'hybride rechargeable, donc là, qui aujourd'hui à peu près permet une autonomie en 100% électrique autour de 50 ou 60 km, mais là, ça nécessite de le charger. Et effectivement, le sujet en ce moment est de dire que les gens n'en ont pas un bon usage, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne chargent pas, ça les embête, etc.
Et donc,
quoi, ils
ont une batterie en plus de
et
leur
donc,
truc.
Donc, ils ont une voiture très lourde, puisqu'ils ont une grosse batterie, un deuxième moteur, et donc ça amène aussi pas mal de réflexions aujourd'hui autour de cette technologie, et notamment l'Europe est en train de réfléchir à revoir les données d'homologation, c'est-à-dire c'est finalement la manière dont sont évaluées les émissions de CO2 de ces véhicules-là, en disant l'usage est inapproprié aujourd'hui, donc on va finalement enlever à ces véhicules-là les avantages fiscaux qu'ils ont, parce qu'en théorie, ils ont une bonne émission de CO2, faible, mais dans les faits, ils ne l'ont pas.
Et donc, pire, s'ils n'utilisent que l'essence avec leur truc énorme, c'est même pire.
Voilà, donc, c'est vrai que sur le papier, c'est une bonne technologie, mais dans les faits, aujourd'hui, c'est pas la meilleure. Donc, et on voit bien, quand je regarde le marché français, par exemple, les gens, ils prennent aussi conscience de ça, parce que quand je regarde là, à la fin du mois de juin, donc le marché n'est pas très bon, hein, puisqu'il fait moins 16% en immatriculation, mais il y a deux technologies qui progressent, l'hybride et le 100% électrique, mais pas l'hybride rechargeable. Donc, ça veut dire que soit les gens se disent, OK, je ne peux pas charger, ça ne correspond
donc,
pas à mon usage, je fais hybride,
ouais, c'est ça.
Et c'est mieux qu'un véhicule d'essence, parce que ça consomme moins si je l'utilise bien, ou je vais vraiment sur le 100% électrique, parce que là, j'ai des solutions de charge à domicile, etc., ou au bureau d'ailleurs. Mais l'entre-deux, c'est-à-dire que l'hybride fait à peu près plus 26 ou plus 27 depuis le début de l'année, l'électrique à peu près pareil par rapport à l'année dernière, et l'hybride rechargeable, moins 15, alors qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché, donc ce n'est pas un problème d'offres. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi une prise de conscience des consommateurs de se dire, finalement, ce n'est peut-être pas la bonne technologie. La bonne technologie, c'est le 100% électrique. Si vraiment je veux avoir un impact extrêmement fort sur l'environnement, l'environnement dans lequel je vis, ma famille vit, et donc je veux aller vers le 100% électrique. Ou si ça ne correspond pas à mon usage, ou si parce que je n'ai pas de solution de charge, ben je vais vers l'hybride. C'est mieux qu'un moteur thermique, si c'est bien utilisé. Mais l'entre-deux, finalement, aujourd'hui, les gens y vont moins, en tout cas quand on regarde des statistiques. Et ça dénote malgré tout que les gens sont de mieux en mieux renseignés sur les avantages et les inconvénients de chacune des technos. Donc. Mais il y a encore un travail d'évangélisation à faire sur la technologie.
Et c'est justement pour ça que tu es là aussi. C'est intéressant. J'ai tout compris. Tu vois, maintenant, je sais factuellement ce qui est le mieux. Après, en fonction, après, chacun de ce qu'il peut, de sa capacité financière, logistique, tout ça. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais envie d'aborder avant la fin de cet épisode?
Ce qui est aussi intéressant, je pense là, parce que j'écoutais que dans ton podcast, tu avais invité aussi des patrons de compagnies aériennes.
Oui, tout à fait.
Et c'est vrai que ce que nous, on développe aussi au niveau du groupe...
L'hydrogène, mais
exactement.
Oui.
Et donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de voitures électriques à batterie, donc ce qui est aujourd'hui la grosse majorité des véhicules électriques qui roulent. Mais c'est vrai que nous, on développe aussi des véhicules électriques hydrogène.
À quel horizon
On a un véhicule qui roule aujourd'hui, hein, déjà. Donc, c'est-à-dire que...
Mais hydrogène, comment? Parce que tu sais qu'il y a plein de couleurs. Alors, vert? Pas vert.
Non, mais il prend tous les hydrogènes. Donc t'as complètement raison. C'est le cœur du sujet, ouais. c'est de produire les véhicules qui sont capables d'absorber cette technologie et aussi de produire l'hydrogène vert.
Mm.
Donc ça, c'est un enjeu fort. Mais la chose intéressante, et là, on disait que les crises font avancer aussi l'esprit des gens, l'état d'esprit des gens. C'est vrai que suite à la crise du Covid, l'Europe, la France et l'Allemagne notamment ont décidé d'investir de manière massive dans le développement de la filière hydrogène. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées, de très grosses type Air Liquide ou de start-up type Life, par exemple, qui se sont lancées dans la fabrication d'hydrogène vert, parce qu'effectivement, ça permettra de répondre à des problématiques, notamment sur la mobilité, et donc d'avoir des véhicules, des poids lourds, des véhicules utilitaires qui vont rouler à l'hydrogène. Ça permet aussi, aujourd'hui, on a un véhicule qui roule qui s'appelle Nexo. Nexo, c'est un véhicule qui a 700 km d'autonomie, donc zéro émission. Donc c'est un véhicule électrique, hein, puisque l'hydrogène, avec la pile à combustible, produit l'électricité. Et
tu le recharges pareil qu'un...
Et non, ça se charge donc finalement un peu comme dans une station-service.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on fait le plein de la voiture, ça dure 3 minutes à peu près. Et 3 minutes, ça permet d'avoir 700 km d'autonomie.
Tout le monde va se ruer sur ce type de véhicule
Alors, ça a du sens aujourd'hui pour des gens qui ont un usage très intensif, on va dire, de leur véhicule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un taxi, par exemple, où on a des poids lourds qui fonctionnent à l'hydrogène, donc des gens qui ne peuvent pas arrêter le véhicule trop longtemps parce que c'est un outil et que finalement, le fait qu'il roule génère du chiffre d'affaires. Donc, pour ces usages-là, l'hydrogène est complètement adapté. Maintenant, pour moi, par exemple, en tant que consommateur de voitures électriques, je fais chez moi le bureau, je pars en déplacement de temps en temps, je peux charger ma voiture au bureau. Donc, si elle est bloquée 2 heures parce qu'elle doit charger, c'est pas un sujet. Donc, l'électrique à batterie correspond à mon usage. Donc, en fait, c'est là finalement le gros challenge.
C'est un guide des usages.
Exactement. Mais c'est exactement
pouvoir...
Exactement. C'est qu'en fait, contrairement à avant où on avait finalement des choix assez simples entre l'essence et le diesel, aujourd'hui, il faut vraiment choisir sa techno en fonction de la manière dont on utilise sa voiture. Et c'est ça en fait l'enjeu pour nous en tant que constructeur automobile, pour nous surtout qui sommes, puisque Hyundai est capable finalement d'avoir toutes ces technologies-là, c'est de bien expliquer aux clients quelle technologie est adaptée à leur usage. Et donc ça nécessite de la part de nos équipes de vente finalement une écoute des besoins des clients.
Une formation, j'imagine d'ailleurs, de vos équipes.
Une formation permanente, mais surtout un élément de base, c'est de quoi vous avez besoin, comment vous utilisez votre voiture, et ensuite je vais vous dire quelle techno est adaptée à votre usage.
Je veux ce modèle à tout prix,
exactement.
Mais finalement en fait, je ne sais pas du tout comment mettre dans cette catégorie.
À ce dont j'ai besoin. Donc c'est là-dessus où il faut être beaucoup plus pointu qu'on l'était avant, parce que finalement, c'est beaucoup plus compliqué pour les gens. Et c'est finalement l'inverse de ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que tout ce qui est fait aujourd'hui est fait pour nous faciliter la vie, pour nous simplifier les choses. Et nous, dans l'automobile, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on rend tout plus compliqué. L'environnement réglementaire est plus compliqué, les zones à faible émission, est-ce que j'ai le droit d'aller là ou pas là, etc. Les éléments de bonus, de malus et autres. Et la technologie. De se dire, l'hybride, c'est quoi? L'hybride rechargeable, c'est quoi? L'électrique, c'est quoi?
L'hydrogène maintenant.
Est-ce que c'est vraiment écologique ou pas?
Le recyclage des batteries. Tout est challengé. L'hydrogène, maintenant, il y a du brun, du gris, du truc, je fais lequel?
L'Europe vient de dire que le nucléaire était vert. Si vous dites ça à un écologiste pur et dur, il va te sauter à la gorge. Donc, il va te sauter à la gorge. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est des sujets qui sont compliqués.
C'est hyper
compliqué. Les gens qui en parlent souvent le font de manière trop simpliste. Donc, c'est là-dessus où il faut être...
Mais surtout, ce qu'il faut quand même se dire, c'est beaucoup essayer de bien faire. même s'ils se trompent. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même encore des irréductibles gaulois ou pas gaulois, mais qui sont climato-sceptiques et qui n'en ont rien à faire. Mais globalement, même malgré tu vois, les erreurs, par exemple, on parlait de l'hybride rechargeable. La base, c'était quand même pour que ce soit bien.
Ah non, mais
c'est
d'accord.
C'est comme les trottinettes. En fait, mais ça partait d'un bon sentiment. Et en fait, en l'état, on se rend compte dans l'usage que ça ne se passe pas bien.
Il y a beaucoup une problématique d'éducation, je pense, de manière générale. Donc, c'est vrai que je vais te donner un exemple assez simple. Il y a quelques semaines, on va dire, ou un peu plus, je vais dîner avec un couple d'amis. Et puis, il y avait un autre couple que je ne connaissais pas. Et puis, un peu mon sacerdoce, c'est quand les gens savent que je travaille dans l'automobile, on parle de voiture. Parce que ça reste un domaine assez passionnel et passionnant. Et donc, le mari, il me dit assez... Bon, ils vivent en province, dans un petit village assez loin de leur lieu de travail. Et donc, il me dit, finalement, pour moi, le mieux, ça reste le diesel. Et donc, je viens de racheter une voiture diesel parce que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres, etc. Pour aller travailler, je fais 100 km par jour de route de campagne. Bon, et puis, vraiment très sûr de lui.
Oui.
Bon, et puis, il insistait un peu, etc. Et donc, j'ai pris une feuille de papier, un crayon, et en deux minutes, je lui ai expliqué qu'en fait, il avait fait une très grosse erreur parce que s'il avait acheté une voiture électrique, il aurait économisé beaucoup d'argent.
Et là, il est devenu
blême. Ouais. Et la question suivante, c'était, mais pourquoi on ne me l'a pas dit ?
Mais oui, mais c'est sûr.
Et en fait, il a raison. C'est-à-dire
oui,
que,
c'est vrai.
Pourquoi on lui a pas dit ?
En plus, c'est écolo, donc en plus, c'est même pas le c'était que le meilleur choix, quoi.
Voilà. Et c'est vrai que ce travail-là, il reste encore beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'a priori,
il y a toujours aussi beaucoup de pseudo-experts. Moi, c'est un peu mon problème, c'est qu'on ne sait plus. Où est la bonne information aussi, finalement. C'est pour ça que moi, dans l'empreinte, j'aime recevoir des experts comme toi qui ont les chiffres, simplement, et qui vont te dire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, tu fais ton choix, mais c'est ça, je te l'expose.
Après, chacun doit assumer ses choix.
C'est ça, exactement. Et revoir ses usages. Même si on ne doit pas, et je suis la première à ne pas vouloir culpabiliser le consommateur, on est tous responsables.
Non, on est d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je roule électrique, donc je peux en parler en connaissance de cause. Quand je pars en déplacement avec ma voiture électrique, je regarde sur la route où sont les stations de charge, je m'assure que l'hôtel où je vais dormir, ils ont bien une station pour pouvoir charger ma voiture, donc ça amène des contraintes. Il ne faut pas mentir aux gens. Mais en même temps, quand on va dire aux gens, vous comprenez, quand je pars en vacances, c'est plus long parce que je dois m'arrêter, etc. Ok, mais on ne part pas en vacances tous les jours non plus, quoi. Je veux dire, c'est pas...
Ouais, il faut revoir sa façon de voyager.
Donc, il y a juste un moment où il faut se dire, ok, finalement, quel est l'effort que je fais au regard de ce que ça amène comme bénéfice. Et puis, il y a un moment donné, je dis, ok, je vais y aller parce que de toute façon, continuer à faire comme avant, ça n'a plus de sens. Et l'effort que je dois faire, c'est comme faire le tri de sa poubelle, quoi. Je veux dire, ok, il faut avoir deux poubelles ou trois poubelles, mais à la fin, c'est pas si compliqué que ça. C'est une contrainte, mais on s'y est habitué. Pourquoi on s'habituerait pas à s'arrêter une demi-heure, une heure pour charger sa voiture, ça va arriver.
Et donc, selon toi, l'avenir du marché le plus, on va dire, éco-responsable possible, ce sera un mix de solutions. Il y aura toujours à peu près toutes ces solutions avec l'hydrogène, peut-être des nouvelles même, on ne sait pas. Mais ce sera toujours un mix. Il n'y aura pas une solution unique et basta cosy, tout le monde l'apprendra.
Non, ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas que des véhicules électriques à batterie. Donc, il y aura d'autres solutions zéro émission.
Il n'y aura plus de thermique, ça c'est sûr. Voilà.
C'est le zéro émission, la question ne se pose même pas. Donc, notre conviction à nous, Hyundai, c'est que l'hydrogène répond à certains usages. On n'est pas les seuls parce qu'il y a d'autres marques aujourd'hui qui sont lancées sur ce même terrain-là. Ça va amener des solutions complémentaires, mais pas que sur la mobilité en plus. Et pas que sur l'automobile. C'est-à-dire que Alstom fait des trains à hydrogène maintenant, des bateaux, l'aviation, évidemment. Évidemment, ça fait partie évidemment des sujets...
C'est la seule solution, c'est l'une des seules solutions pour l'avion.
On vient de signer un deal avec Rolls-Royce, justement, autour de la technologie hydrogène. Donc Rolls-Royce, les moteurs d'aviation. Donc ça veut dire que l'intérêt aussi, finalement, d'avoir des technologies qui s'adaptent à plein d'autres usages, ça rend les choses encore plus cohérentes. C'est-à-dire que le fait que l'Europe veuille produire de l'hydrogène vert, c'est parfait. Parce qu'une fois que j'ai l'hydrogène vert, je peux en faire plein de choses. Je peux le mettre dans les bus, parce qu'évidemment, il y a déjà des bus qui roulent, dans les voitures, dans les véhicules utilitaires, dans les bateaux, dans les trains, dans les avions demain, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire qu'on aura une chaîne qui sera vertueuse. Ça n'a notre sens que si la chaîne est vertueuse. Et surtout qu'on sait qu'on pourra mettre de l'hydrogène aussi un peu pour chauffer nos maisons, on pourra faire... Donc, il y a plein de choses qui permettent de rendre cette technologie-là aussi intéressante à plus d'un titre. Et donc, ça permet d'avoir un écosystème qui est très large et donc qui rend la technologie aussi plus intéressante. Il va y avoir plusieurs technologies pour le zéro émission, en tout cas pour la mobilité. l'électrique à batterie en fera partie, c'est sûr. La question ne se pose pas. Donc, les gens qui continuent à dénigrer ça, ils se mettent une balle dans, ou ils nous mettent une balle dans le pied, en l'occurrence. Dire que c'est vertueux à 100%, c'est mentir, c'est pas vrai. Mais en revanche, ce qui est sûr, et là, c'est, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que c'est bien, bien, bien meilleur que d'une voiture thermique. Et c'est au moins 50% meilleur qu'une voiture thermique, ce qui est déjà colossalement meilleur au regard du nombre de millions de voitures qui roulent. Encore une fois, en France, il y a plus de 30 millions de voitures qui roulent. Donc, t'imagines, si demain, on switch ces 30 millions de voitures d'essence diesel à 100% électrique, ça change quand même de manière importante l'environnement dans lequel on vit. Parce que bon, si je prends les chiffres de l'automobile pure ou du transport, on va se dire que si je prends le transport, de manière générale, c'est à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de là. Alors, moitié moins si on prend que l'automobile, en gros. Donc, c'est colossal l'impact que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas... Les choses avancent. Et c'est vrai que les constructeurs sont souvent pointés du doigt, mais finalement, c'est aussi nous qui amenons les solutions. Donc,
on a besoin de vous, mais oui.
Non, mais c'est vrai que...
Tout vous répondez aux besoins du marché. Donc, si demain, le consommateur veut quelque chose...
Ouais, et puis, ce qui est intéressant, et tu parlais tout à l'heure de la crise du Covid, c'est que ça aussi, ça nous oblige, nous, à démontrer à nos clients qu'on partage les mêmes valeurs. En fait, et c'est aussi ça, finalement, qui est important aujourd'hui, c'est que dans la manière dont les gens consomment, ils veulent plus simplement consommer une marque par principe, entre guillemets, mais ils veulent consommer des marques dont ils partagent les valeurs.
Acheter, c'est vrai que voter, hein.
On est complètement d'accord là-dessus.
On va plus acheter qu'aux urnes, d'ailleurs.
Voilà,
hein.
Malheureusement.
C'est clair.
Mais c'est vrai que c'est important, finalement, d'être capable de partager ça avec nos clients et de leur dire, bah voilà, on a les mêmes préoccupations et on amène des solutions. On n'est pas juste un contributeur de problèmes à partir du moment où, évidemment, les gens sont prêts à sauter le pas. Donc, mais notre travail aussi, c'est de les aider à sauter le pas. Et c'est vrai que nous, ça fait 3 ou 4 ans déjà que, au moins 3 ans, la moitié de notre budget communication est consacré à l'électrique. Alors que ça représentait l'année dernière 10% de nos
ventes. Ouais, et la 30, tu me dis.
Et la 30 cette année. Donc, ça veut dire qu'on a surinvesti aussi ce domaine-là, notamment pour essayer de lever les freins à l'achat. De dire, non, c'est pas si cher que ça parce qu'au travers de la location, c'est abordable.
C'est rentable sur le moyen terme.
L'autonomie, c'est pas un sujet à partir du moment où vous avez des solutions de charge à la maison, notamment. C'est pas un sujet aujourd'hui parce que la voiture dans laquelle je roule aujourd'hui, elle permet de récupérer 80% de son autonomie en 20 minutes, donc c'est relativement court. Donc, des solutions de charge, je disais tout à l'heure, il y en a aujourd'hui 600 000 si j'inclus les bornes que les gens ont à domicile, 60 000 ou un peu moins sur les bornes publiques, donc les choses évoluent. Et finalement, est-ce que la voiture électrique est écologique? Pas à 100%.
Non.
C'est pas 100% zéro émission.
On peut pas dire que ce soit écologique. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une alternative. Enfin, je pense que c'est dans les mots que tu dis demain, voilà. La voiture, c'est une alternative aujourd'hui à la
mobilité. Pour résumer les choses, on a dit véhicule zéro émission.
Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça. C'est
mais
pour
c'est
beaucoup,
zéro émission à l'usage. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est zéro émission
en fait,
à l'usage.
En fait, ça peut pas être un argument de vente de dire, voilà, je roule écologique. Non, en fait, déjà, si tu roules, t'es pas écologique. En fait, c'est aussi le problème. C'est que parfois, c'est dans la communication, les marques font des erreurs parce qu'elles se disent, je vais essayer d'encourager le consommateur à faire mieux, mais en fait, ça devient du greenwashing. Et après, c'est...
Voilà, c'est là où, effectivement, on prête le flanc à des critiques qui sont virulentes et parfois justifiées. Donc, c'est vrai que, voilà, de la fabrication jusqu'au recyclage, on va dire, c'est 50% mieux qu'une voiture thermique, ce qui est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, et à partir du moment où on n'est pas dans une logique où on veut empêcher les gens de se déplacer, bah, c'est-à-dire que c'est ce vers quoi il faut les pousser quand il s'agit de se déplacer en voiture, ou demain, avec, encore une fois, des trains à hydrogène, des avions après-demain, parce que pour les avions, c'est un peu plus compliqué.
Bah, et puis, c'est plus compliqué, c'est que pour les longs courriers, ils ne pourront pas, par exemple. Il faudra du biocarburant obligatoirement. Court et moyen, hydrogène, ok. EasyJet me le disait et Air France me confirmait que non, ce sera biocarburant et mix un peu...
Ils peuvent utiliser l'hydrogène pour tout ce qui est système interne électrique, on va dire, mais pas pour la combustion, enfin, pas pour les moteurs. Donc, il y aura des mix, je dirais, mais... Et puis, accessoirement, ils sont aussi sur des temps d'usage de leurs avions qui sont très longs, et c'est encore pire pour les bateaux, parce qu'on continue à fabriquer des bateaux avec des moteurs, on va dire, qui consomment de manière colossale.
Pas encore eu les bateaux dans l'empreinte, faut que je trouve.
Ouais, non, mais...
Non, mais c'est hyper intéressant que tu me dises que j'ai eu voiture, j'ai eu avion, bateau. Prochaine étape.
Donc, parce qu'effectivement, c'est des véhicules, entre guillemets, qui sont gardés 30 ans, 40 ans. Donc, ceux qu'on fabrique aujourd'hui, 40 ans, c'est long. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des sujets ultra techniques, ultra passionnants.
Mais c'est passionnant.
Il faut arriver à être didactique sans être simpliste. C'est là la difficulté.
Merci beaucoup et c'était passionnant et on a appris plein de trucs. Donc, merci d'être venu dans l'empreinte.
Merci de m'avoir invité.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter, partager le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.